historien et que j'ai trouvé tout à fait passionnant. Mais vous n'auriez peut-être pas dû m'inviter parce que Sigrine a fait une intervention très, très éclairée et sur le transnationalisme en histoire. Et ce que je vais vous présenter, c'est un petit peu la même chose sur la sociologie, mais donc c'est très proche. Et donc il y a une partie des choses que je vais dire que vous avez déjà dites, et en mieux en plus. Donc, mais bon, donc désolée pour les redondances. Bon, ce qui est un peu normal, puisque un concept traverse les sciences sociales et il ne se définit pas différemment en sociologie qu'en histoire. Mais donc mon idée, c'était de revenir un petit peu de façon critique sur l'évolution du champ de la sociologie des migrations au cours des 2-3 dernières décennies, et notamment sur l'avènement de l'approche transnationale qui a été liée, vous l'avez dit, aux critiques du nationalisme méthodologique et qui est en sociologie comme en histoire, je pense, une double évolution, qui est le reflet d'une double évolution, celle d'une part des paradigmes des chercheurs et d'autre part d'une réalité sociale à observer. Mais c'est ce que vous avez très bien dit.
Ça aussi, c'est bien.
Merci.
Je n'ai pas toujours les mots qu'il faut.
Bien. Donc, du point de vue, on s'intéresse là à la sociologie, donc je vais restreindre un petit peu le champ. Du point de vue épistémologique, on peut dire que Abdelmalek Sayad, en France, était peut-être un petit peu précurseur, puisqu'il mettait le doigt sur l'ethnocentrisme qui a présidé pendant longtemps aux études sur les migrations, en France en tout cas, qui n'abordait que les effets de l'immigration sur la société d'accueil. Et finalement, tant qu'en France, l'immigration fut dominée par l'arrivée de populations anciennement colonisées, la majorité des travaux sociologiques restaient plus ou moins liés au point de vue de la société dominante sur ces éléments allogènes qui arrivaient, éléments allogènes tout juste sortis de la catégorie coloniale indigène. Et donc c'est d'abord sur leur participation à la sphère économique et donc partant au monde du travail qui a fait l'objet de travaux de sociologie des migrations. Puis, 1974, arrêt officiel de l'immigration permanente de travail en France, et puis la facilitation du regroupement familial vont conduire à examiner une situation de coprésence sous divers aspects. Et donc, les questions liées à l'immigration vont être les questions d'intégration, la gestion de ces populations par l'État, ou encore ce qu'on appelait encore à l'époque les relations interculturelles, qui vont être prépondérantes dans le débat jusqu'à la fin des années 80. Mais parallèlement, le nationalisme méthodologique, pour faire vite, vous en avez parlé, bon, l'idée c'est un peu, on en a parlé aussi ce matin, c'est l'idée de prendre l'État-nation comme une unité d'analyse allant de soi. Ce nationalisme méthodologique va faire l'objet de nombreuses critiques qui vont être de plus en plus constructives et qui, à partir des années 90, vont prendre le pas sur une conception plus ancienne de la sociologie des migrations et qui va donc encourager par les travaux outre-Atlantique qui vont donc devenir prépondérants dans ce domaine. Donc en Europe, la diversification des migrations et l'interdépendance des économies nationales, évidemment, vous l'avez dit, a débuté à une période qu'on a du mal à situer, puisque on a parlé d'antiquité ce matin, mais dans la sociologie des migrations contemporaines, à un moment donné, on va mettre le doigt sur cette interdépendance au moment de la chute du mur de Berlin et de la réunification de l'Europe, où on va dire on ne peut plus penser les migrations comme on l'a fait jusqu'à présent. Et on doit prendre en compte les bouleversements du monde et donc à partir de là redéfinir les grilles de lecture qui permettent d'aborder les migrations en Europe. Dès lors, il va y avoir deux tendances en sociologie des migrations. D'une part, d'un côté, une tendance va aller dans le sens d'une redéfinition de la question de l'intégration, pour produire toute une série de travaux sur le racisme, sur le maintien des discriminations justement au-delà de la phase de migration, de mobilité. Il va, donc ça va donner lieu à un nouvel essor de la sociologie des relations interethniques, ou ce qu'on a, en reprenant la définition outre-Atlantique, les race relations. Et de l'autre côté, on va en revanche focaliser son regard sur les mobilités, leur mise en pratique dans des espaces en redéfinition, avec en toile de fond la chute du mur de Berlin, la construction de l'Union européenne qui va déplacer des frontières, en renforcer d'autres, en effaçant certaines. Donc ce contexte a vu émerger une nouvelle génération de chercheurs, dont je suis, et pour lesquels le lien entre la situation postcoloniale et l'immigration n'avait plus rien d'évident. L'immigré n'était plus forcément maghrébin, n'était même plus forcément issu du tiers-monde. Son projet d'installation n'allait plus de soi. Et on va donc, à partir de là, construire un peu une sociologie des nouvelles migrations. C'était le terme consacré dans les années 90. On parlait de nouvelles migrations, et qui était notamment appuyé sur des travaux sur les migrations qu'on disait transeuropéennes. Ce qui a eu pour effet, dans le champ de la sociologie française en tout cas, de renforcer le poids de travaux qui avaient émergé dans les années 90, mais qui n'étaient pas mainstream, qui restaient un peu en marge des travaux jusqu'alors. Et ces jeunes chercheurs ont cherché des références, dans sociologie de la circulation migratoire, et on s'est notamment inspiré à ce moment-là des travaux par exemple d'Alain Tarius ou de Michel Peraldi, qui était ici, qui a travaillé avec des collaborateurs, qui dès la fin des années 80 tendaient à laisser de côté le couple immigration-intégration pour proposer un regard davantage centré sur les mobilités et le point de vue des acteurs. Ils apportaient un éclairage sur ce qu'on appelait les sociétés de migrants, en essayant de décrire la complexité des dispositifs dans lesquels se mêlaient en même temps des activités économiques, mais aussi des relations sociales, et où se rencontraient des populations au parcours très divers. Et même s'il s'agissait souvent encore de migrants maghrébins, on n'avait plus du tout la même définition de ces migrants, le même regard porté sur ces migrants. Dans la même veine, les travaux de Mirjana Morovacic, dès le début des années 90, qui va travailler dès le début des années 90 sur les circulations des ressortissants des pays de l'Est, et qui va montrer le caractère mouvement, pendulaire de leur mobilité, et qui va insister sur la précarité des agencements sociaux et commerciaux dans lesquels ils s'insèrent. On peut penser que l'inclination, par exemple, de cette chercheuse pour ces nouvelles mobilités vient du fait que, déjà avant ça, dans la période précédente, c'est quelqu'un qui ne s'intéressait pas à l'ouvrier immigré traditionnel, mais qui a travaillé sur l'émigration des femmes, une migration qui était à ce moment-là quasiment passée sous silence, alors que numériquement, elle était aussi importante que celle des ouvriers, hein, mais qui n'était pas dans le mainstream des études sur l'immigration. Et c'est ce regard peut-être un petit peu à côté du courant principal qui lui a permis à un moment donné de s'intéresser à ces migrations des commerçants d'Europe de l'Est qui venaient sur des places marchandes improvisées en Allemagne notamment, ou celles des Yougoslaves au même moment. Et dans ce sens, même si donc les auteurs comme Tarius, Peraldi, Morovacic et ceux qui étaient autour n'étaient pas forcément des gens qui ont défendu le concept de transnationalisme, c'est eux qui ont introduit petit à petit cette idée, cette façon de concevoir les mobilités. Ce qui caractérise ces travaux, c'est notamment le fait que finalement, vous avez parlé de structuralisme, j'irai un peu plus loin, je dirais, ils s'affranchissent d'une influence marxiste ou néo-marxiste de la lecture des migrations. Et c'est, à mon avis, c'est là qu'il y a une rupture vraiment, c'est cette perte d'influence intellectuelle. Et qui ce sont des auteurs qui, sans vraiment céder à l'individualisme méthodologique, ont remis, ça aussi vous l'avez dit, le focus sur des sujets dotés d'une certaine marge de manœuvre et en partie au moins considérés comme libérés de contraintes structurelles que leur position sociale leur imposait. Ou à minima, ce sont des sujets qui tentent de s'affranchir de ces contraintes structurelles. Et c'est là que le regard change. Et c'est là aussi qu'on peut s'interroger sur est-ce seulement le regard ou est-ce aussi les nouvelles conditions qui ont permis peut-être plus de liberté pour ces migrants. Et c'est une question qui est non résolue, je pense. Hein.
Les migrants ou les chercheurs.
Voilà, les migrants ou les chercheurs. Alors si j'ai le temps, je ne sais pas si j'aurai le temps, j'ai une communication en étage. Éventuellement, on parlera de la situation des chercheurs. Donc, alors j'ai essayé d'accélérer. Une demi-heure d'intervention. Alors j'aurai le temps. En France, comme aux États-Unis, ce renouvellement des paradigmes a été donc encouragé par des mutations sociales majeures à la fin du XXe siècle, qu'on a désignées rapidement sous le label de mondialisation. Il y avait l'idée que le monde se rétrécissait. Du fait d'une part des moyens de transport, des autoroutes de l'information, de la multiplication des échanges. Et on a commencé à s'intéresser à des espaces sociaux qui ne se limitaient plus aux frontières des États. Des auteurs comme Alessandro Portes, mais aussi Nina Glickschiller, dont vous parliez tout à l'heure, ont très bien argumenté l'idée selon laquelle les migrants étaient passés en quelques décennies d'un modèle d'ancrage social fort dans le pays d'immigration à un modèle plus transnational dans lequel on nouait des liens de part et d'autre et où on pouvait jouer sur une coprésence qui était, disait-il, transgressive envers la normativité des États. Et là aussi, il y a vraiment un dialogue à avoir avec les historiens. À quel moment est-ce que les migrants sont devenus transgressifs par rapport à la normativité des États ou est-ce seulement le regard des chercheurs qui, à un moment donné, a pointé cette particularité? Donc, ce qui a, à mon avis, fait le succès de cette approche, c'est notamment la capacité vraiment intrinsèque au concept de transnationalisme de saisir ce qui se joue dans divers espaces en même temps à travers et au-delà des frontières de la recherche, notamment des frontières qui limitaient non seulement l'activité des migrants mais qui limitaient la recherche. On a remis le migrant au centre de la scène et on a intégré dans les analyses la capacité d'action des migrants. Et on s'est même intéressé à leur capacité d'action politique transnationale. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement nouveau, en tout cas par rapport aux travaux des années 80. On a abordé les effets de la mondialisation sur les relations des individus aux États. Et on s'est interrogé sur cette question de l'allégeance des migrants, non plus comme l'avait fait l'école de Chicago au début du XXe siècle dans un monde borné, mais en le mettant en lien avec l'idée d'un monde hyper connecté, hyper interdépendant. À partir des années 2000, l'approche transnationale qui est venue des États-Unis va être mobilisée par un nombre croissant de chercheurs en France, puisqu'elle offre un cadre conceptuel à la multitude des travaux qui se développent à l'époque autour de la circulation migratoire. Et là, on voit que on importe ou on reprend ce concept de transnationalisme des États-Unis pour expliquer une réalité typiquement européenne qui est celle de la chute du mur et de la construction européenne et donc d'une nouvelle situation en Europe. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va vraiment utiliser ce terme de transnational qui va finalement devenir un peu un courant dans lequel on va mettre ces auteurs dont je parlais tout à l'heure, Tarius, Moroguasic, etc., qui n'étaient pas transnationalistes au départ, mais qui ont trouvé là un cadre dans lequel ils pouvaient rentrer. Ces travaux qui s'inscrivent dans le transnationalisme voient au moins trois avantages à ce concept, à ce courant. D'une part, c'est la possibilité de décrire un phénomène qui est présenté comme nouveau ou en progression, celui de l'activité transnationale des migrants. D'autre part, de proposer une méthodologie qui rompe avec l'ethnocentrisme. Et enfin, de redessiner la figure du migrant en lui restituant sa subjectivité et son autonomie. Or, on l'a dit, et donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, la question de savoir si c'est l'activité des migrants qui est devenue transnationale ou le regard des chercheurs se pose en tout cas. Et on peut se demander si finalement la rupture n'est pas plus épistémologique qu'empirique. C'est-à-dire, c'est vraiment une nouvelle façon d'observer les migrations. Je passe sur cette partie. Ce qu'on retient dans cette rupture, c'est la capacité de dépasser ce nationalisme méthodologique qui, pour le coup, n'est plus d'actualité, qui doit être dépassé et sur lequel, à mon avis, il y a un des acquis de ce courant, c'est-à-dire que aujourd'hui, voilà, tout le monde est d'accord là-dessus, on ne peut pas aborder la question des mobilités en le restreignant à l'étude dans le cadre de l'État uniquement. D'autre part, et c'est là le point que je propose de discuter, c'est un peu les fondements, ou disons ce qui n'est pas dit, mais qui fait partie du dispositif intellectuel qui conduit à l'avènement du transnationalisme. La figure archétypale du migrant transnational, c'est un commerçant autonome, émancipé, qui est en constante mobilité, que celle-ci soit physique ou dans ses relations sociales. Et donc, on a fait le postulat que ce migrant commerçant autonome émancipé vient finalement incarner à lui seul le processus de mondialisation. Or, ça pose une question parce que la référence presque systématique à ces travaux dans la sociologie des migrations contemporaines a conduit à laisser penser que le travail des étrangers qui s'inscrivait dans des dispositifs d'échange autorégulés et en grande partie affranchis de l'emprise des États était devenu la modalité d'insertion économique la plus révélatrice des mutations sociologiques contemporaines. Dit autrement, la mondialisation, donc le néolibéralisme qui est derrière, aurait transformé les migrants, et même les migrants économiques, en indépendants, et ou bien on aurait à minima fait un modèle dominant. Or, si ce commerçant migrant est devenu un idéal type de référence, il n'y a aucune raison de considérer qu'il est devenu majoritaire parmi les migrants, ni qu'il aurait vocation à remplacer les salariés dans le monde de la migration. Et à mon avis, c'est quelque chose de relativement important. Il y a eu beaucoup de travaux depuis les années 2000 sur les migrants précaires, les salariés précaires, ce qu'on appelle en anglais, à la suite d'Anderson, les steady jobs, c'est-à-dire tout ce qui est les petits emplois dangereux, dévalorisés, etc. Et qui montrent que non seulement le salariat migrant existe encore, mais qu'il est une composante, si ce n'est majoritaire, en tout cas très importante, des migrations contemporaines. Et donc, on a vu dans le champ de la sociologie des migrations, dans les années 2000, d'un côté, un certain nombre de chercheurs qui, si ce n'est défendaient, en tout cas s'inscrivaient dans ce courant transnational, et qui menaient de vastes programmes de recherche, très bien financés, et puis, de l'autre côté, des chercheurs qui, peut-être qui étaient influencés par des écoles plus anciennes, mais qui s'appliquait à mettre à jour des processus de domination dont étaient toujours sujets les migrants et qui s'inscrivaient dans ces migrations salariées. Ce qu'ont montré des gens comme Saskia Sassen, mais en Europe, des gens comme André Area, Alain Maurice, Salvatore Palida, Maurizio Ambrosini et bien d'autres, c'est que c'est une erreur d'aborder la mondialisation au-delà finalement des hiérarchies qu'elle fonde et donc des classes sociales pour traiter les migrations contemporaines. En effet, les travaux donc des pères et mères fondateurs du transnationalisme, dans sa définition la plus large, cherchant à montrer que les élites n'étaient pas les seules à se mondialiser, ont souligné la capacité de ceux d'en bas à faire comme ceux d'en haut. Je reprends là l'idée de Portes, hein, la mondialisation par le bas, c'était ça, c'était de dire il n'y a pas que les élites qui se transnationalisent et finalement les petits mouvements font la même chose, sont aussi dans ce processus de mondialisation. Alors ça partait de l'idée qu'il ne fallait pas laisser les migrants économiques derrière comme si c'était le reliquat d'une époque ancienne, mais que oui, les migrants économiques aussi étaient mondialisés. Or, en montrant ça, on a insisté sur le fait que cette mondialisation aurait permis aux migrants de s'émanciper des structures de domination classique, celle de l'État, puisqu'ils devenaient subversifs aux yeux de l'État, comme celle de l'entreprise, puisqu'ils devenaient des commerçants autonomes, et que cette capacité d'émancipation s'exprimait dans le rapport au territoire, puisqu'ils devenaient hypermobiles. Et donc hypermobile, ça veut dire hyper autonome, hyper émancipé. Or, c'est pas un hasard si cette figure est celle du commerçant. Les commerçants sont en effet plus protégés du monde de l'État, plus protégés des dominations. Mais on a sans doute eu tort, et je me mets dans le lot, quand on a pensé que cette perspective transnationale pouvait servir de cadrage à l'ensemble de l'étude des migrations contemporaines. À mon avis, il est important de replacer l'étude des migrations salariées en donnant toute sa place aux structures de production dans lesquelles il s'insère. Et même si aujourd'hui on hésite à parler de structures de production, les migrants restent situés économiquement, situés dans des hiérarchies sociales, et il me semble que le transnationalisme est allé un peu vite sur cette question. Cela n'enlève rien à la pertinence des travaux sur le transnationalisme, mais il ne faut pas, à mon avis, limiter la question des migrations au transnationalisme. Les conditions d'emploi des étrangers sont en effet au cœur des mutations du monde du travail en Occident et sont susceptibles en cela d'éclairer les évolutions profondes de la société. Il ne faut pas penser que d'un côté il y aurait des migrants mondialisés qui seraient les commerçants et de l'autre côté des migrants qui seraient le reliquat d'une époque ancienne qui seraient des salariés. Le monde du salariat a évolué, le monde du salariat, de la sous-traitance, de la délocalisation, est pleinement partie de la mondialisation, de la globalisation, et dans ce cadre-là, ces migrants-là sont des migrants mondialisés. Donc mon idée, ce n'est pas de dire qu'il faut trouver une voie intermédiaire entre le transnationalisme et une analyse peut-être plus en termes de sociologie du travail, mais je suggère plutôt de considérer que la sociologie des migrants, des travailleurs migrants, a tout à gagner à prendre en compte la dimension transnationale des sujets étudiés, tout en admettant que leur rapport à la mobilité ne repose pas sur les mêmes dispositions que celles des élites, et que la mondialisation par le bas n'est pas juste le miroir de la mondialisation par le haut. Non seulement l'analyse de la mondialisation économique éclaire les dispositifs dans lesquels les migrants sont embauchés, mais le caractère transnational des migrants, à savoir leur capacité à jouer sur plusieurs tableaux en même temps, leurs implications sociales multiples et leur relative autonomie par rapport aux États, conditionnent également les rapports sociaux dans la structure de production. Et si les migrants sont plus mobiles aujourd'hui, c'est non seulement parce que le contexte de la globalisation le leur permet, en effet, c'est également parce que toute insertion économique au plus bas de l'échelle est aujourd'hui extrêmement précaire. Et si la mobilité est une ressource, en effet, elle intervient pour la majorité des migrants pour pallier un défaut de stabilité. Et donc, en ce sens, je pense qu'il faut revenir sur l'implicite selon lequel l'accentuation de la mobilité témoignerait tout simplement d'une émancipation de la part des migrants. Dire mobilité égale émancipation, c'est à mon avis quelque chose de problématique en soi. Je conclurai brièvement sur quelque chose de plus personnel, entre guillemets. Sur l'autre facette de la médaille, pour essayer de comprendre dans quelle mesure les mutations socio-économiques du début du XXIe siècle ont influencé la structuration du champ de la sociologie des migrations et l'engouement pour les études transnationales. En effet, à partir des années 90, le milieu de la recherche a subi des transformations profondes, on le sait tous, on les connaît, qui l'ont amené à faire évoluer ses pratiques. Et à mon avis, ce sont autant les structures d'opportunités rencontrées par les chercheurs que les changements dans les pratiques migratoires qui ont donné son souffle au transnationalisme. D'une part, quand Alessandro Portes développe toute l'influence des nouvelles technologies, des nouvelles possibilités offertes par la mondialisation pour les migrants et pour développer le transnationalisme, je crois qu'on ferait bien de l'appliquer à nous autres chercheurs, à savoir que nous aussi, on a pu à un moment donné voyager. Pour nous aussi, c'est devenu simple à un moment donné d'aller faire du terrain dans les zones d'origine et sur les lieux de passage. Pour nous aussi, c'est devenu facile d'avoir accès aux travaux des chercheurs de l'autre côté de l'Atlantique, et notamment cette importation du concept de transnationalisme qui a été assez rapide et souvent sans tenir compte des contextes dans lesquels il a émergé. Eh bien, c'est aussi l'effet des technologies de la mondialisation. Et de ce point de vue-là, les chercheurs, à mon avis, sont autant soumis à l'évolution des technologies. D'autre part, en même temps que finalement le monde ouvrier passait des grands collectifs industriels à la sous-traitance à grande échelle, le monde académique passait d'une recherche mue par l'évolution plus ou moins de ses seuls questionnements à une recherche par projet. On en est tous là, on le sait, on travaille principalement par projet financé au coup par coup sur le mode de la concurrence. Et on a vu comment s'est structuré le financement de ces projets, tant au niveau français avec l'ANR qu'au niveau européen, à savoir qu'on répond régulièrement à des projets pour obtenir des crédits. Et je pense que dans ce cadre-là, le transnationalisme a bénéficié des possibilités offertes. Pourquoi ? Parce que on a favorisé l'interdisciplinarité, l'internationalisation des recherches, la possibilité pour les sciences sociales d'éclairer le politique, il y avait cette grande idée. Hein. Or, tout ça correspond très bien aux recherches transnationales, et c'est, si on voit tellement, à mon avis, de titres de projets transnationaux, c'est parce que quand on travaille sur les migrations, c'est facile de travailler en effet à l'international. C'est quelque chose qui se vend bien, et je suis désolée de dire ça dans le monde de la recherche, mais c'est ce qu'on fait. Or, travailler sur le transnationalisme aujourd'hui, quand on est évalué par ces sphères internationales, dans les projets européens, etc., c'est quelque chose qui passe très bien. Et finalement, moi je me demande si le transnationalisme, c'est pas une façon un peu dépolitisée aujourd'hui d'aborder la question des migrations. Et si, je le regrette, mais si c'est pas ça qui fait sa force aussi. Voilà, le transnational comme une migration dépolitisée qui permet du coup de répondre à des critères européens. Voilà, c'est ma conclusion.